France Culture.
Avoir raison avec Paul Valéry. Géraldine Mosna-Savoie.
La durée des œuvres est celle de leur utilité. Il y a des siècles pendant lesquels Virgile ne sert à rien. Cette phrase est de Paul Valéry et manque de chance ou comble de la clairvoyance, elle semble, 80 ans après sa mort, parfaitement s'appliquer à lui et à son œuvre. Il suffit pourtant, comme le dit encore Paul Valéry, d'un seul exemple, d'un seul argument, d'un seul prétexte pour qu'une œuvre revive. Et aujourd'hui, celui du contexte européen semble y suffire. Car lui seul, Paul Valéry a su, un siècle avant le nôtre, décrire la crise de l'Europe, mais aussi en appeler à sa force culturelle. Toute cette semaine, on dépoussière le trop officiel Paul Valéry. Et aujourd'hui, deuxième épisode, nous autres, civilisation, nous savons que nous sommes mortels.
Nous autres, civilisation, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d'empires coulés à pic avec tous leurs hommes et tous leurs engins, descendus au fond inexplorable des siècles avec leurs dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences pures et appliquées, avec leur grammaire, leur dictionnaire, leur classique, leur romantique et leur symboliste, leur critique, et les critiques de leurs critiques. Nous savions bien que toute la terre apparente est faite de cendres, que la cendre signifie quelque chose. Nous apercevions, à travers l'épaisseur de l'histoire, les fantômes d'immenses navires qui furent chargés de richesses et d'esprit. Nous ne pouvions pas les compter. Mais ces naufrages, après tout, n'étaient pas notre affaire. Élam, Ninive, Babylone étaient de beaux noms vagues, et la ruine totale de ces mondes avait aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais France, Angleterre, Russie, ce seraient aussi de beaux noms. Lusitania aussi est un beau nom. Et nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Les circonstances qui enverraient les œuvres de Keats et celles de Baudelaire rejoindre les œuvres de Ménandre ne sont plus du tout inconcevables. Elles sont dans les journaux.
Bonjour Paola Catani.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature française à l'Université Romatré. Vous avez consacré de nombreux travaux à Paul Valéry, établi et présenté l'édition des écrits politiques de Paul Valéry disponible chez Gallimard. Comment expliquez-vous l'oubli de Paul Valéry et même le dédain que suscite son œuvre, du moins en France, puisque vous êtes en Italie, il y a de nombreux chercheurs, chercheuses comme vous qui travaillez sur Paul Valéry. Oubli ou dédain, d'autant plus étonnant que ces premières lignes de sa crise de l'esprit résonnent si fort avec notre époque.
Oui, en effet, ce sont des premières lignes qui résonnent très fort sur la crise de l'Europe. Valéry se demande comment est possible que tant de sciences, tant de savoirs permettent la destruction de la guerre. L'Europe croyait avoir atteint le sommet du progrès scientifique et spirituel et elle découvre tout à coup qu'elle peut retomber dans la lutte fratricide et destructrice. Donc effectivement, une pensée malheureusement d'actualité. Alors Valéry n'a pas été oublié. En réalité, ses premières lignes ont été souvent citées dans les études critiques, dans les études historiques, dans la presse également. Mais généralement, elles sont interprétées comme un diagnostic de crise et des morts de l'Europe. Alors que Valéry dit quelque chose d'un peu différent et de très intéressant dans mon sens, il ne dit pas que l'Europe va mourir, mais plutôt que la mort de l'Europe est devenue concevable. Soudainement, l'Europe, après la Première Guerre mondiale, se découvre ne pas être exempte du sort des autres grandes civilisations disparues et elle découvre qu'elle pourrait se réduire à un bonhomme vague, tels que ceux qui figurent dans les livres pour évoquer les glorieuses civilisations du passé comme Élam, Ninive et Babylone, on l'a entendu. Donc il ne s'agit pas tellement d'un diagnostic de la mort de l'Europe que d'un avertissement angoissé qui vise surtout à réveiller les Européens afin qu'ils puissent réagir à la crise qui les entoure. Donc voici aussi l'actualité peut-être de ces messages.
Alors cette crise de l'esprit, en fait, ce sont deux lettres hein, qui ont été commandées par John Middleton Murray. Elles datent du 11 avril et 2 mai 1919. Vous avez bien rappelé, Paola Catani, d'où elles partent. C'est-à-dire ce paradoxe de dire que tant de savoir et de morale en Europe ont pu produire tant de descriptions. Si l'on a mal interprété ces premières lignes, cet incipit de la crise de l'esprit comme quelque chose de pessimiste, comme quelque chose qui annonçait la mort de l'Europe, est-ce qu'il ne faut pas se prémunir aussi, Paola Catani, d'un anachronisme avec Paul Valéry, c'est-à-dire de plaquer cette lecture de l'après-Première Guerre mondiale à notre époque aujourd'hui? C'est-à-dire jusqu'où on doit s'inspirer de Paul Valéry et de cet appel au réveil culturel de l'Europe?
Oui, alors lorsque Valéry écrit « La crise de l'esprit », nous sommes au printemps 1919, comme vous l'avez justement rappelé, puisque Valéry répond à un appel de la revue londonienne The Athenaeum. Donc son article est publié d'abord en anglais et ensuite traduit en français sur la Nouvelle Revue française au mois d'août 1919. Alors nous sommes à un moment où la guerre est finie depuis quelques mois, mais elle a laissé un héritage, disons, destruction, désespoir partout, chez les vaincus comme chez les vainqueurs. Et l'article de Valéry devient tout de suite très important, très célèbre, s'impose comme une référence presque obligée dans les vastes débats publics et intellectuels sur la situation du continent. Alors je trouve que Valéry voulait écrire surtout quelque chose d'intemporel, ce qui nous autorise à nous pencher sur les textes aujourd'hui encore, parce que Valéry transforme cette méditation sur le sort, la sort du continent après la Première Guerre mondiale, dans une réflexion plus vaste sur les valeurs qui doivent guider la vie en commun, voilà, la vie en commun des Européens. Donc effectivement, je crois qu'il s'agit d'un texte qui contient toujours des réflexions qui nous interpellent, voilà.
Il y a effectivement la guerre en Ukraine, il y a le rôle que joue l'Europe entre la Russie et les États-Unis, quel rôle elle veut jouer. Mais le titre déjà peut-être, Paola Catani, la crise de l'esprit, le nom de l'Europe n'apparaît pas dans ce titre, n'apparaît pas tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire pour Paul Valéry, la crise, et pourquoi parle-t-il d'esprit? D'abord peut-être sa définition de la crise.
Oui, alors, quant à la crise, alors Valéry, nous savons depuis l'étymologie de ce terme, la crise n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. La crise est un moment, un tournant crucial qui peut porter à des développements positifs ou même négatifs. Alors Valéry emploie ce terme dans ce moyen sens, c'est-à-dire qu'il faut essayer de profiter de ce moment de crise pour rebâtir une Europe qui se trouve effectivement dans une condition difficile. Et quelle Europe est entrée en crise concrètement, selon Valéry? Il s'agit de l'Europe libérale, de l'Europe démocratique, qui avait été constituée tout au long du XIXe siècle et qui connaît une crise profonde au début du XXe siècle, notamment par cause de l'individualisme hypertrophié, d'une liberté qui est devenue proche de la licence, d'un désordre anarchique et stérile, d'un système international organisé par nations et qui ne peut pas faire face aux défis internationaux, supranationaux qui se posent. Certains de ces maux de l'Europe nous rappellent de près ceux que nous connaissons aujourd'hui. Et alors Valéry pense que l'Europe ne doit pas se tourner vers les solutions anti-libérales par lesquels les Européens étaient tentés dans l'entre-deux-guerres, mais plutôt que cette crise du libéralisme démocratique de l'Europe doit la pousser à se poser à nouveau la question de quelles sont les valeurs à sauver, à sauvegarder, comment repenser certains fondements, voilà, de la vie en commun, notamment la notion de liberté, notamment la notion de variété, de multiplicité, etc., qui font l'objet du texte de Valéry.
Alors que propose-t-il justement dans ce texte, Paola Catani? C'est là où on en vient à ce deuxième grand nom dans ce titre. Après la crise, il y a la crise de l'esprit. Quelles sont ses valeurs à défendre pour Paul Valéry? Quelle est sa thèse et est-ce qu'elle est si lisible que ça? Vous l'avez dit, il y a eu des mauvaises interprétations. J'ai lu ces deux lettres et c'est vrai qu'on entend au départ une forme de pessimisme. La crise de l'esprit a commencé avant la Première Guerre mondiale. Elle se poursuit après la Première Guerre mondiale. Lui-même a l'air tenté à certains moments de tout abandonner.
Oui, bien sûr. Alors, revenons d'abord à l'esprit. Alors, d'après Valéry, l'homme se caractérise, se distingue des animaux avant tout par son esprit. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Ce sont des songes. Un long passage de la note que Valéry ajoute à la crise de l'esprit en 1922, une note qui a pour titre « Note ou l'Européen », donc un long passage consacré à ces songes qui distinguent l'homme des animaux. Donc, non pas tellement l'intelligence, mais plutôt, disons, les transformations que l'homme imprime à la réalité et donc qui surgissent de la tension entre ce qui est et ce qui n'est pas. Donc, entre satisfaction des besoins et insatisfaction inépuisable des désirs, entre donc réel et possible, factuel et imaginaire. Valéry pense que la pensée occupe une place cruciale chez l'homme, puisqu'elle est l'instrument de ce qui n'est pas. Donc la pensée et l'esprit est l'auteur des rêves que l'homme se doit de choisir soigneusement. Donc sa réflexion sur l'Europe est aussi une réflexion sur les rêves que l'Europe doit choisir, quelle idée d'homme, quelle idée d'avenir elle doit choisir. Au sujet du pessimisme, donc effectivement, Valéry mêle donc cette perspective foncièrement, je ne dirais pas optimiste, mais constructive, c'est-à-dire se demander quel homme on désire pour l'avenir, quelle idée d'homme, à un pessimisme, disons, au constat que l'Europe connaît, traverse une crise. Mais à mon sens, on pourrait très bien comparer donc, son idée de crise à celle de Spengler, d'Oswald Spengler, une pensée de la crise très célèbre, qui remporta un succès extraordinaire et immédiat dans les mêmes années, puisque Oswald Spengler, allemande, publie « Le déclin de l'Occident » en 1918, dans sa première partie, alors qu'on a dit que la crise de l'esprit de Valéry est de 1919. Et Spengler formule un diagnostic de la mort de la civilisation européenne, mais plus en général occidentale, très proche de celui de Valéry, puisque le diagnostic de Spengler part d'une manière analogue de l'anthropomorphisation de la civilisation et surtout du parallèle avec les civilisations anciennes. Or, Spengler, dans son diagnostic, formule, exprime son diagnostic à l'aide d'un style très net. C'est-à-dire, il emploie des antithèses, un ton péremptoire, il procède des certitudes en certitudes, et puis finalement, son diagnostic est imbibé d'un certain déterminisme, qui fait qu'effectivement, est un diagnostic pessimiste sur la mort de l'Europe. Tout au contraire, Valéry propose ses réflexions sur un ton dubitatif. Donc le texte est plein d'interrogations, de points de suspension, qui laisse véritablement de l'espace au lecteur pour se poser lui-même le problème. Donc l'objectif de Valéry est de solliciter une méditation chez les lecteurs et donc l'appeler à une réaction, à l'action. Donc finalement un pessimisme qui se mêle de volontarisme. Donc il faut réagir, il faut se poser le problème de quelle Europe on désire. Voilà.
Mais vous le dites très bien, Paola Catani, c'est-à-dire qu'il veut susciter chez le lecteur, et on imagine un lecteur isolé chez lui en train de lire ce texte, se demander ce qu'il souhaite pour l'Europe. Est-ce que là on ne perd pas la dimension politique un petit peu, c'est-à-dire d'une construction collective, d'un projet politique où une Europe serait fondée sur des valeurs communes? Est-ce qu'il n'y a pas justement, contre cette idée démocratique du tout, du peuple, une valorisation plutôt de voilà, certains individus, des grands hommes, face au reste du peuple, des pays, des nations?
Oui, il y a une notion très importante pour Valéry, la notion d'homme de l'esprit. Justement, on vient de parler, de préciser en quoi consiste l'esprit selon Valéry. Alors, il tire de là la notion d'homme de l'esprit. L'homme de l'esprit est quelqu'un, dit Valéry, qui vit pour l'esprit. Mais ce n'est pas l'intellectuel. Alors, il veut préciser dans des textes, l'une des conférences qu'il tient, notamment à Vienne en 1926, revient sur ce point et explique que, pour lui, l'homme de l'esprit est quelqu'un donc qui vit pour l'esprit indépendamment de son instruction ou bien de son niveau de culture. C'est-à-dire tout un chacun peut être un homme de l'esprit, quelqu'un qui se soucie de l'avenir, qui se soucie de la destinée spirituelle au sens non religieux, bien sûr, du terme. Et je disais, l'homme de l'esprit donc, n'est pas une conception élitaire, mais c'est quelque chose d'ouvert à tout un chacun. Et surtout, c'est distinct de l'intellectuel, puisque pour Valérie, l'intellectuel n'est pas immune de l'esprit de guerre. Alors là, il y a quelque chose que Valérie pense, il s'agit d'une mission pour l'intellectuel de contenir et de réduire les antagonismes, la conflictualité, qui sont enracinés dans l'homme et plus en général dans la vie sociale. Donc l'homme de l'esprit s'efforce de pratiquer des échanges qui soient des conversations. C'est un homme du dialogue contre la violence verbale qui s'incarne notamment dans les débats politiques, de la politique politiquée, ou bien dans les pamphlets littéraires. Et Valérie essaye dans son œuvre de donner cours à une telle parole, disons, politique, puisqu'il s'intéresse à la politique, c'est-à-dire à ce qui a trait à la polis, à la vie de la cité, mais en dehors de toute violence verbale, en dehors de toute tendance à l'opposition verbale. Et un bon exemple pourrait être, par exemple, le discours de commémoration d'Henri Bergson, où les figures...
Qui était en 1941, au moment de sa mort.
Oui, bien sûr. Alors, Bergson meurt en 1941, dans la France occupée, qu'il oublie, puisqu'il les laisse mourir en solitude. Il n'y a pas de célébration, pas de cérémonie. Et Valérie décide de consacrer à Henri Bergson un discours de commémoration à l'Académie française. C'est un discours donc très polémique contre l'oubli qui a investi Bergson et en même temps, aucune note discordante et polémique n'apparaît dans les discours. Donc c'est un exemple du style de Valérie qui est exempte de violence verbale et en même temps qui dit tout de même des choses à contre-courant. Voilà.
On va écouter tout de suite une archive de Paul Valéry qui date du 30 décembre 1938.
J'adresse aux citoyens des États-Unis la parole d'un poète du vieux continent. Je leur dis que le continent américain est, pour l'antique culture européenne, le seul espoir qui nous demeure, car toute notre civilisation est très sérieusement menacée par la bestialité croissante des haines et des convoitises politiques. Nos monuments, nos œuvres d'art, nos bibliothèques peuvent être détruits en quelques semaines. Notre esprit est plus menacé encore. Seule l'Amérique pourra conserver et entretenir le trésor des connaissances et des œuvres que l'Europe a accumulées pendant tant de siècles. Je voudrais que les Américains eussent conscience de cette responsabilité magnifique et essentielle pour le genre humain.
Lettre aux citoyens des États-Unis le 30 décembre 1938. On entend dans cette archive Paola Catani, Paul Valéry en appeler aux Américains, aux citoyens des États-Unis pour préserver l'esprit européen. On peut souligner quand même que Paul Valéry a énormément écrit sur la politique. Dès 1890, il a été très lucide sur l'expansion allemande, sur le danger de cette expansion. Vous avez parlé de l'hommage à Bergson, philosophe juif en pleine occupation. On pourrait aussi rappeler ce qu'on a dit sur la crise de l'esprit et le rôle de l'Europe, mais il ne faut pas oublier quand même que Paul Valéry n'a pas été que lucide, il s'est trompé. On pourrait notamment parler quand même de l'affaire Dreyfus, dans laquelle il était anti-Dreyfusard. Il était lui-même, il dit, on m'a souvent traité de réac, il était nationaliste. Ce nationalisme passe avec la Première Guerre mondiale. Comment expliquez-vous cet écart entre cette lucidité et en même temps ces erreurs, ces tâches de son parcours ?
Oui, alors l'affaire Dreyfus est un moment très intéressant pour comprendre Valéry, je trouve. Puisqu'en réalité, alors, il ne prend pas parti publiquement, après le J'accuse, comme à l'armée, qui est son maître. Effectivement, à ce moment-là, en 1898, Valéry affiche un intérêt plutôt pour les questions d'ordre international que pour l'affaire Dreyfus, ce qui est bizarre. Il projette un article, par exemple, qui s'appelle « Marginalia sur la guerre actuelle », sur la guerre sino-japonaise et hispano-américaine, donc deux guerres qui montrent que l'ordre mondial est en train d'être bouleversé, puisque les nations les plus jeunes menacent les anciennes. Et donc, sa méditation sur l'Europe commence ici, ne commence pas tellement au lendemain de la Première Guerre mondiale, mais plutôt commence déjà à la fin du XIXe siècle, à partir des déséquilibres internationaux que le monde connaît. Et au sujet de l'affaire, ce sont surtout les lettres à Gide qui sont intéressantes, puisque Gide, lui, il a signé la pétition pour la révision du procès, et Valéry, qui n'est pas d'accord, lamente avec Gide, d'un côté, la faiblesse de la France dans la nouvelle perspective internationale, mais surtout, ce qui l'agace, il s'en explique très bien avec Gide dans ses lettres, et surtout que certains, dans les débats sur l'affaire Dreyfus, s'accaparent les idéaux de justice, les idéaux de justice et de liberté, écrits avec un majuscule. Parce que Valéry, lui, il a une conception différente de l'engagement de l'homme de lettres. Pour lui, il ne faut pas adhérer à une partie politique spécifique, mais plutôt l'homme de lettres, ou plutôt l'homme de l'esprit, doit exercer sans cesse le doute et sa liberté intellectuelle. Donc ce sont plutôt des questions d'ordre, je dirais, de la conception de l'engagement qui l'éloigne de l'affaire Dreyfus. Il n'est pas anti-Dreyfusard dans la mesure où il est contre, disons, la révision du procès et Dreyfus lui-même, mais plutôt dans le contexte des dynamiques de l'engagement des intellectuels.
Mais c'est, je vous interromps, Paola Catani, mais il y a une vraie contradiction, c'est-à-dire au nom de la défense de la justice, c'est-à-dire de l'instrumentalisation, selon lui, de grands principes de la justice par les Dreyfusards, il va être du côté de l'injustice. Est-ce qu'on doit alors se demander si Paul Valéry, effectivement, est un penseur politique, mais dont le centre n'est pas celui d'une société juste où tous les individus seraient à égalité?
Non, je ne crois pas, puisqu'en effet, comme je le disais, il n'est pas contre Dreyfus et pour l'injustice que l'affaire Dreyfus représente, tout au contraire. Parce qu'effectivement, vous venez de dire que Valéry était nationaliste. Ce n'est pas tout à fait correct, puisqu'il pensait que les nations, effectivement, sont des unités minimales importantes, mais en même temps susceptibles d'engendrer quelque chose de très dangereux, très nuisible, qui est le nationalisme. Donc pour lui, il faut en même temps garder les nations comme principe qui permet de passer de l'individu à la communauté, et surtout à une communauté supranationale qui est nécessaire à ses yeux, sans abolir les nations. Donc c'est la raison pour laquelle il s'inquiète de la faiblesse de la nation française. Mais en même temps, il pense bien sûr que le nationalisme est quelque chose de très dangereux et qu'il faut à tout prix dissocier de l'idée de nation. Donc à cela, il est l'héritier, disons, de l'idée de nation que les libéraux du XIXe siècle avaient, donc la nation comme quelque chose, une force d'agrégation plutôt que d'opposition. Donc pour comprendre Valéry, il faut traverser le XIXe siècle et la pensée politique du XIXe siècle, et donc repenser aussi certains termes qui pour nous se chargent de significations différentes, mais qu'il comprenait à partir, voilà, de l'histoire de la philosophie politique, j'oserais dire, du XIXe siècle. Et c'est le même pour l'idée de démocratie. Alors parfois on pense que la pensée de Valéry puisse être accusé d'être, disons, élitiste, donc antidémocratique. Au contraire, Valéry se soucie énormément de la liberté et donc de la liberté de la vie en commun, donc démocratique. Et il se demande comment préserver dans les démocraties la liberté individuelle, la liberté libérale aussi, contre les dangers que la pression, disons, de la démocratie de masse, avec tous ses mécanismes, exerce sur l'originalité de la pensée individuelle.
J'ai cité le texte d'une conquête méthodique. J'ai parlé aussi, on a parlé de la crise de l'esprit. On pourrait citer aussi la politique de l'esprit. Aussi tout son recueil regard sur le monde actuel et autres essais. Est-ce qu'à travers tous ces textes, Paola Catani, Paul Valéry nous permet de répondre à ce dilemme que vous venez de décrire, à savoir comment concilier dans une démocratie l'originalité de chaque individu?
Oui, je crois que les recueils que vous avez évoqués sont des recueils très riches et qui ont connu d'ailleurs au fil des décennies une réception exceptionnelle. C'est-à-dire que il y a plusieurs penseurs, même du XXe siècle, qui ont noué un dialogue parfois polémique mais toujours fécond avec la pensée de Valéry. Puisque Valéry ne donne pas à proprement parler des réponses à ces grandes questions, mais il parvient à formuler ces questions, disons, sans lisser les aspérités. C'est-à-dire, sa pensée est toujours problématique, fait voir les hésitations, en dehors des poncifs, des doctrines ou des idéologies, donc fait voir les choses les plus problématiques avec lesquelles on doit avoir affaire. Et pour citer quelques-uns des penseurs qui se sont laissés inspirer ou bien interpellés par les réflexions des recueils que vous avez évoqués, entre autres, il y a Marc Bloch, Edward Said, Jacques Derrida, qui ont formulé leurs réflexions à la fois sur l'histoire, sur l'Europe et l'Orient, sur l'Europe et l'autre cap dans le cas de Derrida, à partir précisément de certaines formulations valériennes, des formulations très denses et littérairement, disons, fulgurantes, qui contiennent plusieurs éléments qui ne cessent de nous solliciter. Donc je crois que c'est un exercice vraiment critique de la pensée.
Merci beaucoup Paola Catani. De vous, on peut lire Paul Valéry, L'Europe et l'esprit, écrit politique 1896-1945. C'est une édition que vous avez établie et présentée. Elle est disponible aux éditions Gallimard. Et on peut aussi lire votre excellent article paru dans la revue Le Grand Continent, Entre crise et espérance, l'Europe de Paul Valéry.
Merci.
Betreten feuertrunken, himmlische Einheiligtum. Meine Zauber binden wieder, was die Dämonen stränden tat. Alle Menschen werden Brüder, und ein sanfter Friede
Je rappelle que toutes les œuvres de Paul Valéry sont disponibles aux éditions Gallimard. Et un grand merci à Nicolas Berger pour la réalisation, à Anthony Thomasson pour la prise de son. Rendez-vous demain pour la suite de cette série Avoir raison avec Paul Valéry. Et d'ici là, sur le site de France Culture ou sur l'appli Radio France.